breath, look around you. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition du jeudi 16 avril 2015. À la une ce soir.
République démocratique du Congo, le bilan de la récente attaque à l'arme blanche à Beni dans le Nord Kivu passe à près d'une vingtaine de morts.
Des défenseurs des droits de l'homme réclament la libération immédiate de plusieurs activistes détenus par les autorités congolaises.
Guinée, Alpha Condé rejette les accusations de l'opposition, disant qu'il n'y a eu aucun tir à balles réelles lors des manifestations en début de semaine.
Ce n'est pas vrai. Vous regardez les forces de l'ordre, l'armée est casernée. Et la gendarmerie et la police n'ont pas d'armes. Ils ont des armes non létales.
Le président guinéen dans un entretien avec VOA Afrique.
Au Yémen, la branche locale d'Al-Qaïda s'empare d'un important aéroport dans le sud-est du pays.
Washington cherche à imposer sa volonté sur la scène internationale. Accusation lancée par le président russe Vladimir Poutine alors que la Russie et les États-Unis coopèrent dans plusieurs dossiers, y compris le nucléaire iranien.
Nous aurons également nos segments sur l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal.
Nous ouvrons sur l'est de la RDC. Le bilan de la récente attaque à l'arme blanche en territoire de Beni s'alourdit. Alors que les premières nouvelles parlaient de 5 morts, un bilan officiel publié aujourd'hui fait état de 19 personnes tuées. Beni, région de l'est de la République démocratique du Congo, est depuis quelque temps le théâtre de massacres attribués à des rebelles ougandais. Nous déplorons la mort de 18 personnes, plus une femme enceinte qui a été décapitée, a déclaré à l'AFP Amissi Kalonda, l'administrateur du territoire.
Et toujours concernant la RDC, Human Rights Watch appelle les autorités à libérer sans délai 7 militants des droits de l'homme détenus, pour certains, depuis plus d'un mois. Idriss Fall.
Dans son communiqué, Human Rights Watch dit que les autorités de la RDC devraient libérer sans délai 7 activistes pacifistes qui sont détenus de manière injuste, certains depuis le 15 mars. À défaut d'une libération, les autorités devraient les inculper d'un délit crédible, ajoute Human Rights Watch, rejoignant une demande formulée la veille par la CAGE, une ONG locale de défense des droits de l'homme. L'Assemblée nationale a constitué fin mars une mission d'information pour comprendre les raisons de cette détention prolongée des militants et ses conclusions se font toujours attendre. Pourtant, l'article 18 de la Constitution de la RDC dispose que la garde à vue ne peut excéder 48 heures et, passé ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente.
5 personnes ont été condamnées ce jeudi à des peines de 2 à 6 mois de prison ferme pour trouble à l'ordre public par un tribunal de Conakry après les violentes manifestations du début de la semaine dans la capitale guinéenne. Tous les 5 doivent payer la même amende de 63 euros. Le tribunal a relaxé un autre prévenu pour délit non constitué. Un recours en appel est envisagé selon un avocat des prévenus cité par l'AFP. Les heurts entre partisans de l'opposition et forces de l'ordre qui ont fait 2 morts et 10 blessés selon le pouvoir, mais 3 morts et une cinquantaine de blessés, selon l'opposition. Dans un entretien avec VOA Afrique, le président guinéen Alpha Condé a démenti l'usage de balles réelles par les forces de l'ordre lors de ces manifestations. Interview à suivre dans la seconde partie de cette édition.
Et du nouveau sur l'attentat contre l'université de Garissa qui a fait 148 morts le 2 avril au Kenya. Les 4 assaillants ayant mené cette attaque revendiquée par l'organisation islamiste Al-Shabaab seraient tous kényans. C'est du moins ce qu'indique le Daily Nation, le plus gros tirage de la presse nationale. Le point avec Eddie Sango.
Ces 4 assaillants ont été tués par les unités d'intervention kényanes. Jusqu'ici, seul un d'entre eux a été officiellement identifié. Il s'agirait d'un Kenyan d'ethnie somalie, originaire des Mandera, ville du nord-est kényane, frontalière avec la Somalie et diplômé en droit de l'université de Nairobi. Les 3 autres seraient eux aussi kényans, en croire des sources qui ont gardé l'anonymat au sein des services des renseignements. Ils seraient originaires de Mombasa, principal port d'Afrique de l'Est, de la région de Bungoma, près de l'Ouganda. Aucune confirmation officielle n'a pu être obtenue. Si leur nationalité kényane venait à être confirmée, cela démontrerait les capacités de recrutement des islamistes somaliens d'Al-Shabaab et la radicalisation d'une partie de la jeunesse kényane.
Et c'est dans ce contexte que Médecins sans frontières met en garde contre le retour forcé des réfugiés somaliens dans leur pays, mesure réclamée par le Kenya en réaction au massacre de Garissa.
L'Algérie a invité hier toutes les parties maliennes à un nouveau round de négociations. Le gouvernement malien a déjà exhorté le préaccord, mais la coordination des mouvements de l'Azawad avait prononcé son intention de paraffer le document, mais s'est rétracté par la suite, disant qu'il y avait encore quelques points à clarifier. IBK exhorte les rebelles à paraffer l'accord. Nous écoutons donc le président Ibrahim Boubacar Keïta dans un discours prononcé aujourd'hui.
Personne n'a dit que l'accord était parfait. Personne. D'abord, pas le gouvernement du Mali. Nous avons 12 pages d'amendements qui portent sur tous les points. Mais nous sommes hommes responsables. Il est bon, il est séant, il est convenable que lorsque l'on négocie, l'on comprenne le terme, le sens profond du terme négocier. Je donne, tu donnes. Nous avançons intelligemment. Je ne t'impose pas, parce que l'objectif, c'est la compréhension mutuelle. Donc, il y a des compromis. Pas des compromissions, mais des compromis. Au terme de tout cela, nous avons estimé, sans trahir aucunement notre peuple, nous ne le ferons jamais, ni rien d'essentiel dans la constitution de la République du Mali, que ceux qui étaient proposés là par la médiation pouvaient être donc un accord cadre à l'intérieur duquel nous pourrions évoluer. Étant entendu que nous-mêmes convenions déjà que notre gouvernance intérieure devait être revue et corrigée à l'aune des préoccupations de décentralisation et de régionalisation. Donc, pas de problème. Et dès l'instant où notre propre constitution admettait la libre administration, pas de problème. Voilà dans quelles conditions nous avons estimé devoir paraffer l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali en Alger. C'était le 1er mars. De cette date à aujourd'hui, beaucoup de patience. Et nous espérons toujours que nos frères arrêteront d'écouter les sirènes qui ne nous veulent pas de bien, qui nous voudraient toujours diviser. Pour quelle fin ? Il serait temps que nous le comprenions.
Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta.
Nouveau naufrage dans la Méditerranée. 41 migrants ont disparu après que leur vieux canot pneumatique se soit dégonflé et a coulé. C'est ce qu'ont expliqué les survivants, tous africains, à leur arrivée en Sicile. Par ailleurs, dans un autre incident, 12 hommes ont été jetés en mer après une rixe sur l'embarcation de fortune qui devait les amener en Europe. Les victimes, des Nigérians et des Ghanéens, auraient été visées en raison de leur religion chrétienne. Leurs assaillants, une quinzaine d'hommes, seraient des musulmans sénégalais, maliens et ivoiriens. Ils ont été arrêtés à leur arrivée en Europe.
Le président sud-africain Jacob Zuma a lancé aujourd'hui un appel au calme et à la fin des attaques xénophobes. Par ailleurs, étrangers et sud-africains sont descendus dans les rues de Durban pour exprimer leur ras-le-bol. Michel Joseph.
Au moins 4000 personnes ont marché contre la xénophobie à Durban, à l'appel des autorités locales qui avaient loué des bus pour l'occasion afin de permettre aux habitants des townships de venir manifester. La marche a commencé de façon pacifique, nous dit Kapende Ntashi, un témoin, mais la police a dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser des contre-manifestants. L'incident a duré quelques minutes. Le chef de l'État a condamné les violences dans les termes les plus forts. Nous appelons au calme et à l'arrêt des violences, a lancé Jacob Zuma lors d'une allocution au Parlement retransmise en direct à la télévision. Kapende Ntashi, un Sud-Africain opposé aux attaques xénophobes, dénonce la montée de la peur et les messages de haine. Les violences xénophobes dans les faubourgs de Durban, le plus grand port sud-africain sur l'océan Indien, ont fait au moins 6 morts depuis début avril. Les émeutiers accusent les étrangers de prendre le travail des Sud-Africains ou de faire une concurrence déloyale au commerce local dans les townships où le taux de chômage atteint les 40%.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Yémen, où la situation sécuritaire continue de se détériorer, la branche locale d'Al-Qaïda s'est emparée de l'aéroport de Mukalla dans le sud-est. L'AFP rappelle que le groupe Al-Qaïda au Yémen avait pris le contrôle des principaux quartiers de Mukalla il y a 2 semaines, libérant plus de 300 détenus. Pendant ce temps, des combattants de tribus ont pris ce jeudi le contrôle d'un important terminal pétrolier dans le sud-est du pays. Ils n'ont fait face à aucune résistance, apprend-on de même source.
Le président russe accuse les États-Unis de vouloir dominer les les relations internationales. Vladimir Poutine dit toutefois que son pays est toujours prêt à coopérer. Répondons aux questions du public sur une chaîne de télévision russe. Monsieur Poutine a rappelé que les efforts de Moscou en vue d'imposer son modèle de développement en Europe de l'Est après la Seconde Guerre mondiale n'avaient rien de bon. Cependant, a-t-il ajouté, les Américains sont en train d'agir de la même façon en cherchant à imposer leur modèle à travers le monde, ce qui est voué à l'échec selon Vladimir Poutine.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu aujourd'hui une réunion informelle à huis clos à l'initiative des États-Unis sur les accusations d'utilisation de chlore comme arme chimique en Syrie en violation des résolutions de l'ONU. Les ambassadeurs de 15 pays membres devaient entendre des témoignages d'un médecin syrien et d'un survivant d'une attaque aux armes chimiques perpétrée près de Damas en août 2013. Washington, Londres et Paris accusent le régime de Bachar al-Assad d'avoir mené les attaques au chlore, soulignant que seules les forces syriennes disposent des hélicoptères nécessaires pour répandre le gaz.
Deux figures ukrainiennes pro-russes, un journaliste connu et un ancien député ont été tués par balle à Kiev ces dernières 24 heures. C'est ce que rapporte l'AFP. Le président Petro Poroshenko dénonce une provocation profitable aux ennemis du pays qui combat les séparatistes pro-russes. De son côté, le président russe Vladimir Poutine a accusé le gouvernement ukrainien de ne rien faire pour élucider ces meurtres. Au plan international, l'OSCE a appelé les autorités ukrainienne à assurer la sécurité des journalistes. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce soir avec Camille Grosdidier.
Entre 2011 et 2014, 700 millions de personnes ont ouvert un compte auprès d'une banque, d'une institution financière ou d'un prestataire de services bancaires par téléphonie mobile. Note la dernière édition de Global Findex. Ce rapport est publié depuis 2011 par la Banque mondiale avec le financement de la Fondation Bill et Melinda Gates et en partenariat avec Gallup Inc. Il couvre plus de 140 pays où il étudie le comportement des adultes en matière d'épargne, d'emprunt, de paiement et de gestion des risques. Toujours selon la dernière édition du Global Findex, le nombre de personnes non bancarisées a reculé de 20% à 2 milliards d'adultes. Et puis, fin de la 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Le Tchad, après deux mandats, a passé le témoin au Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, le nouveau président en exercice du SILS, a été salué par son homologue tchadien Idriss Déby Itno.
Je voudrais donc, en ce moment précis où je passe le flambeau à mon frère le président Ibeka, m'assurer et je suis sûr que je remets cette institution entre les bonnes mains. Et je sais de quoi il est capable, il va faire secouer tout le monde.
Au terme de la rencontre, 9 conventions ont été adoptées par les États membres du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Camille Grosdidier.
Les feux sur les stades, les sports avec Bagassi Koura qui nous rejoint en studio. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Et on va parler à nouveau ce soir des quarts de finale aller de la Ligue des Champions en Europe.
Eh bien, le Paris Saint-Germain a été battu hier soir par le Barça 3-1. Et c'est par le même score que le Bayern a été laminé par Porto. 3-1.
Athlétisme, c'est la ville de Eugene qui va accueillir les championnats du monde 2021.
Voilà, la ville américaine de Eugene dans l'Oregon, c'est dans l'ouest du pays, accueillera les championnats du monde d'athlétisme en 2021. C'est ce qu'a annoncé en tout cas à Pékin la Fédération internationale d'athlétisme, l'IAAF. Cette décision est motivée par, je cite, l'opportunité stratégique unique, fin de citation, d'organiser cette compétition biennale pour la première fois aux États-Unis, a expliqué l'IAAF dans un communiqué. Depuis leur création en 1983, les mondiaux d'athlétisme en plein air n'ont en effet jamais été organisés ici au States.
Et de l'athlétisme au basket.
Voilà, San Antonio, votre équipe, Chérubin, a été battue, j'ai dit, mais battue par les New Orleans 103-108. défaite également de Orlando. Oui, allez-y.
On se prépare pour la phase finale, tout simplement.
Ok, c'est pas grave. Défaite également de Orlando face au Brooklyn Nets, 88-101. Une autre victoire pour Cleveland qui bat Washington, 113-108. Victoire de Detroit sur les Knicks de New York, 112-90. Et Miami qui gagne de justesse face à Philadelphie, 105-101. Et enfin, Indiana perd contre Memphis, 83-95.
Merci, bonne soirée Bagassi.
Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Diriec et cher Romain Dorcil, en votre compagnie, place au dossier du jour.
On commence en Algérie, Morgane. Ce pays a invité hier toutes les parties maliennes à un nouveau round de négociations. Il faut dire que le gouvernement malien a déjà paraffé le préaccord, mais la coordination des mouvements de l'Azawad, qui avait annoncé son intention de paraffer le document, s'est rétractée par la suite, disant qu'il y avait encore des points à clarifier. Alors, où se situent les points de blocage? Idriss Fall a recueilli l'avis de Boubacar Sidiki Diarra, directeur du journal Malika à Bamako.
Les gens ont du mal à comprendre pourquoi tout ça. Moi, je veux vous le dire, hein, tout simplement. En fait, ce sont les mêmes personnes, les mêmes acteurs qui sont de part et d'autre. C'est-à-dire qu'au moment où ils refusent la négociation, ils acceptent, ils refusent. En ce moment, on commet des attentats. Et ceux qui se disent séparatistes ne condamnent pas ces attentats qu'ils attribuent aux djihadistes. Et personne ne dit rien.
Ceux que vous appelez les indépendantistes, ils revendiquent, eux, autre chose quand même.
Oui, évidemment, quand on dit indépendantistes, c'est qu'ils veulent leur indépendance. Mais c'est ça le paradoxe. S'ils veulent leur indépendance, ils doivent être en mesure de sécuriser les territoires qu'ils demandent. Mais vous constatez que ce n'est pas le cas. Et les attaques sont attribuées au groupe djihadiste. Eux, ils veulent un territoire qu'ils ne contrôlent absolument pas du tout. Ce qui me pousse à dire qu'entre eux et les djihadistes, il n'y a absolument rien, absolument rien. Ils sont les djihadistes, ils sont les indépendantistes. Ce sont les mêmes acteurs. Les djihadistes et les indépendantistes sont les mêmes.
Mais on sait que quand même qu'il y a quelques différences entre Ansar Dine de Iyad Agali et les MNLA quand même.
Non, moi je ne vois absolument aucune différence. Parce que les mêmes combattants de Ansar Dine se retrouvent très souvent aux côtés du MNLA. Selon les circonstances, selon la géopolitique, ils choisissent de parler au nord d'eux. Sinon, c'est pratiquement le même groupe, les mêmes acteurs qui prennent d'autres noms. Regardez bien, par exemple, le MNLA qui se retrouve au sein du mouvement de coordination de la Zawad, et lequel aussi se retrouve au sein du ICIA, le Haut Conseil islamique, le Haut Conseil pour l'unification de la Zawad. Et ce sont les mêmes qui se retrouvent aussi avec Iyad Agali. Ce sont les mêmes.
Ibrahim Boubacar Keïta a appelé quand même le CMA à paraffer, ne serait-ce que le document, disant qu'il n'y a pas un projet parfait, d'accord?
Oui, c'est le président de la République qui parle. Lui, il a une autre vision, il a une autre mission. Mais nous, observateurs, nous avons notre analyse de la chose. En convainquant ses interlocuteurs à paraffer le document, ça, il y aura quand même un bon politique et puis une vision claire. Parce que je me dis quelque part, moi personnellement, ça n'engage que moi, mais pourquoi les obliger à paraffer? Parce que de toute façon, on connaît aujourd'hui l'adversaire, on connaît l'ennemi. Maintenant, en paraffant, on les oblige à paraffer. Ils ont dit que non, on les a obligés, on n'était pas d'accord. Eh bien, pourquoi les obliger à paraffer?
Mais même si finalement un accord est signé, conclu à Alger, est-ce que vous pensez qu'il y aura la paix avec tous les groupes que l'on connaît, Al-Qaïda, le Moujao, les Mourabitou, qui ont pignon sur rue dans le nord du Mali?
Ma réponse est non, il n'y aura pas la paix. Mais ça donnera beaucoup plus de visibilité peut-être et donnera un argument aux États de la sous-région de mener éventuellement la guerre ouverte. Parce qu'en ce moment, on dit, bon, ok, vous avez parlé, il n'y a pas de raison que ces actes de terrorisme et de ces attaques-là continuent. Donc sinon, ça n'amènerait pas la paix.
On écoutait Boubacar Sidiki Diarra, directeur du journal Malika à Bamako.
Dans Washington Forum ce jeudi 16 avril, le Mali, chronique d'une rébellion déclarée. Qui sont les principaux acteurs de ce conflit? Quels enjeux? Quelles solutions? Et surtout, quel avenir pour un pays tiraillé par des luttes ancestrales? Le dialogue est engagé, mais le gouvernement malien et la coordination des mouvements de l'Azawad tardent à se mettre d'accord. Dites-nous ce que vous en pensez sur notre page Facebook. Je vous donne rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel.
Saloua Jafari, en votre compagnie, dans 11 minutes.
Suite de la visite d'Alpha Condé aux États-Unis, après sa rencontre hier avec Barack Obama, le président guinéen s'est entretenu avec des sénateurs américains. Le professeur Condé a accordé une interview à VOA Afrique dans laquelle il dément tout tir à balles réelles de la part des forces de l'ordre lors des récentes manifestations à Conakry. Nicolas Pineau s'est entretenu avec le président Alpha Condé.
Bon, vous savez, l'Ebola est un problème national. Nous, nous avons lancé un appel à tout le monde, les sociétés civiles, les partis politiques, pour qu'on fasse l'union sacrée, parce que l'Ebola, c'est une guerre, pour qu'on mène la guerre contre l'Ebola, afin de mettre fin à l'Ebola. Bon, évidemment, il est souhaitable que tout le monde se mobilise d'abord pour mettre fin à l'Ebola, ce qui n'explique pas, parce qu'au moment où on fait l'urgence sanitaire renforcée, normalement, il ne devait pas avoir de manifestation ni de mouvement de foule.
Mais les forces de l'ordre ont-elles tiré à balles réelles sur les manifestants?
Ce n'est pas vrai. Vous regardez les forces de l'ordre, vous pouvez prendre les films, vous avez des collaborateurs là-bas, l'armée est casernée. Et la gendarmerie et la police n'ont pas d'armes. Ils ont des armes non létales, c'est-à-dire des grenades lacrymogènes. Par contre, vous avez des civils qui tirent sur les gendarmes avec des fusils de chasse. Si vous allez, beaucoup de diplomates peuvent vous confirmer qu'ils ont été voir les gendarmes à l'hôpital. Maintenant, je ne sais pas d'où viennent ces informations de dire qu'on a tiré. Dans aucun des hôpitaux, il n'y a eu aucun seul mort. Et les gendarmes ne tirent pas à balles réelles. Nous avons donné des véhicules blindés aux gendarmes, ils sont protégés. Par contre, c'est eux qui reçoivent des pierres. Nous faisons ce qu'on appelle le maintien d'ordre civilisé, c'est-à-dire les grenades lacrymogènes, les bâtons. Mais les gendarmes n'ont pas tiré. Depuis que moi je suis venu, je ne permets pas que les gendarmes soient armés.
Alors l'opposition a suspendu ses manifestations, elles reprendront lundi. Quels sont vos rapports avec l'opposition? Est-ce vraiment ce degré de tension avec les leaders de l'opposition, notamment les trois anciens premiers ministres?
Bon, vous savez, on a mis en place une commission. On s'était mis d'accord sur le choix de l'opérateur économique, opérationnel par voie, appel d'objet qui a été fait. On s'est mis d'accord sur la lutte contre l'impunité. On s'est mis d'accord sur un comité de veille qui va suivre la CENI. Donc, les élections en Guinée, ça dépend de la CENI. Le gouvernement n'a rien à voir dedans. La CENI propose des dates à tous les partis. Et si je pense qu'ils peuvent le faire, je prends le décret. Donc, le ministre de la Justice est chargé d'animer le dialogue. Le premier ministre a fait encore appel hier au dialogue. Donc, moi, je laisse les gens qui sont chargés du dialogue continuer le dialogue. Vous savez, l'élection présidentielle, c'est constitutionnel. C'est une date impérative. Si on n'organise pas l'élection à cette date, il n'y a plus de légitimité.
Le président Alpha Condé est sur VOA Afrique. Une interview en vidéo à retrouver sur notre site web voafrique.com.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Parlons maintenant du lancement hier des opérations d'enregistrement des candidatures pour les élections régionales en République démocratique du Congo. Cela suscite déjà des réactions. L'ex-mouvement rebelle M23 menace de ne pas reconnaître les nouvelles autorités qui seront issues de ces élections si, au préalable, les réfugiés congolais ne sont pas rapatriés. Eddy Issango a joint le président du M23, Bertrand Bissimwa.
Tout devrait être fait par le gouvernement congolais pour que ces Congolais aient la chance d'être élus ou d'élire également les représentants du peuple. Et si cela n'est pas respecté pour cette mandature, nous pensons que ces Congolais-là n'ont pas l'obligation de reconnaître les autorités qui seront élues.
La dernière modification de la loi électorale devrait permettre aux Congolais qui sont à l'étranger, y compris les réfugiés, de voter. Vous ne pensez pas que ce sera le cas?
En ce qui concerne les Congolais qui sont des réfugiés dans les pays, notamment l'Ouganda, le Rwanda et puis le Burundi, il est un fait qui est aussi important. C'est que le droit d'élire, mais aussi de se faire élire, ne leur est pas possible pour le moment. Parce que c'est des personnes qui ne peuvent pas fouler le territoire congolais pour des raisons sécuritaires. Donc, ce n'est pas qu'ils réclament le droit d'aller se représenter, d'aller se présenter dans une ambassade pour élire. Ce n'est pas cela. C'est le droit aussi de se faire élire. C'est le droit aussi de participer à la campagne électorale, de pouvoir faire face à leurs candidats, discuter avec eux. Cela fait la différence avec les autres Congolais qui ont choisi pratiquement de vivre à l'étranger. Mais nous autres, nous n'avons pas choisi de vivre à l'étranger. Nous avons été contraints à vivre à l'étranger. Et par rapport aussi à la possibilité qu'il est offert de vivre ou de se faire élire.
Est-ce que vous pensez que les conditions sécuritaires soient réunies pour organiser les élections?
Les Congolais, justement, se cachent derrière ce prétexte pour ne pas tenir les élections. C'est pourquoi nous avons dit qu'il est important que les opérations de sécurisation de l'est du pays, malheureusement, on a l'impression que le pouvoir en place travaille aussi à contre-courant pour que la sécurité ne revienne pas sur toute l'étendue du pays, pour qu'il se fasse un prétexte pour ne pas tenir les élections.
C'était Bertrand Bissimoy, le président du M23.
Au Burkina Faso, les membres du gouvernement de la transition ont finalement déclaré leurs biens selon une exigence de la charte de la transition. On y apprend que l'ensemble du patrimoine du Premier ministre Isaac Zida, qui totalise 20 ans de service dans sa carrière militaire, est estimé à plus de 660 millions de francs CFA, dont un immeuble de 350 millions de francs CFA à Ouagadougou. Cette déclaration a été faite près de 6 mois après leur entrée en fonction et selon le Premier ministre Isaac Zida, ils n'ont pas besoin de justifier leur fortune. Pour une réaction, Bagassi Koura a joint Bassolma Bazier, il est le secrétaire général de la CGTB, la Confédération générale des travailleurs du Burkina.
Comment un mec qui m'a levé le café se retrouver avec ça? Je ne doute pas de sa foi. La déclaration, elle exprime une foi. Mais même si, même si on la prend comme telle, je pense que pour quelqu'un qui m'a levé de l'État, c'est trop. Donc je pense que c'est vrai, même si je l'ai bien acquis avant la nomination au poste de Premier ministre. Il n'y a que, comme là, si la loi anticorruption est rendue effective, le ministre de la France doit permettre d'engager des enquêtes pour comprendre comment les biens sont acquis.
Donc vous pensez qu'ici, il y a un cas de délit d'apparence?
Pour moi, je pense qu'il y a des points qui ne peuvent pas... Il y a des gens qui aiment le bruit de l'État là. Il ne peut pas avoir ça dans notre contexte africain là. Difficile de se retrouver démagé au bruit de l'État avec les salaires du milieu qu'on connaît là et puis pouvoir faire ces réalisations, pouvoir avoir ces acquis là.
Le fait qu'on fasse ces déclarations de biens presque à mi-mandat, hein, 6 mois après la prise de fonction, est-ce que ça vous dérange?
Ça me dérange, c'est un, c'est deux. Même si les biens, effectivement, sont acquis avant la nomination. Bon, c'est pas parce que on a des biens avant la nomination que ces biens ne sont pas suspects. Ah oui.
Est-ce que c'est pas quand même un pas vers plus de transparence? Parce que c'est une première, hein?
Oui, absolument, c'est un plus par rapport à avant. Mais je dis que c'est vrai, mais la transparence, là, elle n'est pas allée jusqu'au bout, quoi. Donc, moi, je pense qu'on peut pas construire un pays sur le nid de l'intimité, c'est pas possible. Donc ça veut dire que la transparence doit aller jusqu'au bout, les gens doivent comprendre. Moi, j'ai du mal à comprendre que quelqu'un qui est mal obligé de l'État se retrouve avec quelqu'un acquis. C'est ça que j'ai du mal. Et que par-dessus, le marché, il est responsable. Parce que si les acquis sont mal acquis, ça veut dire qu'il est indigne d'être responsable. Responsable du pays.
Voilà, c'était donc Confé Amadi du SINCHA, le syndicat des agents de la santé du Burkina.
Salut les amis, Roger Montou, VOA Afrique. Retrouvez-moi ces jeudis dans RM Show, au menu African Music. Et bien sûr que nous continuons avec notre sujet hebdomadaire, la grande question, les clandestins africains. Pourquoi quittent-ils leur pays d'origine? Nous aurons des témoignages des clandestins dans RM Show. Ne ratez pas cette émission interactive. Appelez au 001-202-619-31-40. Je répète, c'est le 001-202-619-31-40. Envoyez-nous un message sur notre groupe Facebook Roger Montou, la voix de l'Amérique. RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
République démocratique du Congo, le bilan de la récente attaque à l'arme blanche à Beni dans le Nord Kivu passe à 19 morts.
Des défenseurs des droits de l'homme réclament la libération immédiate de plusieurs activistes détenus par les autorités congolaises.
Le président guinéen Alpha Condé rejette les accusations de l'opposition, disant qu'il n'y a eu aucun tir à balles réel lors des manifestations de début de semaine. Manifestations qui ont fait 2 morts selon le gouvernement, mais 3 morts et une 50aine de blessés selon l'opposition.
Au Yémen, la branche locale d'Al-Qaïda s'empare d'un important aéroport dans le sud-est du pays.
Washington cherche à imposer sa volonté sur la scène internationale. Accusation lancée aujourd'hui par le président russe Vladimir Poutine, alors que la Russie et les États-Unis coopèrent dans plusieurs dossiers, y compris le nucléaire iranien, Morgan.
À la mise en onde ce soir, Michel Joseph. Présentation, Morgan Diriek et Chérubin Dorsil.
On ne saurait oublier Brian Marcoulier, il fait toujours un travail excellent.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bangui sur 101.7 FM. Sabari FM, Bamako. Golf FM, Cotonou. Milo FM 99.5, Cancan Niger. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.